en quelque sorte. Et nous en arrivons maintenant au verset 23 du chapitre 15 de Luc, qui nous parle là de la parabole de l'enfant prodigue. Je ne lis pas toute la parabole, comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser au fils aîné. Mais avant d'arriver vers lui, il faut se mettre dans le contexte, parce que le fils aîné arrive dans l'histoire à un moment particulier, au moment où on commence à célébrer la fête, parce que le petit frère est rentré, est revenu. « Amenez le veau gras qu'on a engraissé et tuez-le. Nous ferons un grand festin pour nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Ça, c'est l'ambiance. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva à la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je ne t'ai désobéi, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Avec le personnage du fils aîné de la parabole, je crois que nous arrivons effectivement au centre, moi j'appelle ça le centre dramatique de la parabole. Vous avez vu tout à l'heure que le Seigneur Jésus s'adresse à un public particulier. Il y a même deux publics qui l'écoutent. Il y a ce que Luc appelle les pécheurs notoires. Tout le monde le sait, ce sont des gens douteux qui sont là et qui écoutent Jésus et boivent ses paroles. Ils sont venus, ils se pressent autour de Jésus pour l'écouter. Ça, ce sont une partie du public. Puis l'autre partie du public, ce sont les pharisiens et les spécialistes de la loi qui sont un petit peu en retrait. Je les imagine, hein, le texte ne le dit pas. Mais je crois qu'il est utile de lire la parole de Dieu en faisant marcher un petit peu son imagination. Donc il y a ce deuxième groupe, un petit peu en retrait, qui regarde et qui manifeste un sentiment tout à fait différent. Eux sont fâchés. Comment ça se fait que ce Jésus qui se prétend maître, un rabbin, puisse parler à des gens dont on sait qu'ils ne valent rien du tout, des pécheurs notoires? Et le texte continue en disant, « Alors Jésus leur répondit par ses paraboles. » Et quand il parle du fils aîné dans sa parabole, on comprend bien à qui il s'adresse. Il s'adresse à ces pharisiens, à ces spécialistes de la loi, qui sont un peu comme ce fils aîné, et qui murmurent, qui critiquent ce qui est en train de se passer, qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas. Autant l'histoire du fils cadet se termine bien, autant celle de l'aîné est malheureuse, tragique même. Alors il vaut la peine d'étudier un peu le personnage et essayer d'en tirer quelques enseignements, quelques leçons de vie. Alors le jeune frère qui a vécu à la manière de Gatsby le Magnifique, si vous avez vu le film, un flambeur, totalement insouciant, qui se retrouve finalement un peu dans la position de la cigale de la fable, qui ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Je ne me suis pas trompé, Claude. Merci. Alors le fils aîné, par contre, il ressemble plus à la fourmi. Et la fourmi, vous le savez, n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Le fils aîné, effectivement, se caractérise, c'est comme ça que je le perçois, un peu comme un calculateur. Il donne cette désagréable impression de ne rien faire sans calculer ce que ça pourrait lui rapporter. Si je fais ceci, qu'est-ce que je vais en retirer? Et chez lui, tout est affaire de donnant-donnant. C'est ce qui guide ses engagements. Il croit au grand principe du salut au mérite. Et s'il y en a un qui ne mérite pas la faveur de son père, c'est bien son petit frère. C'est vite vu. Ah, bien sûr, le fils aîné, il cache bien son jeu. Et sous le couvert du fils qui sert sans jamais désobéir. Le texte le dit, hein, jamais il ne désobéit. Ah, il est lisse, aimable et sympa, ce gars-là. Mais c'est une couverture. Mais ce jour-là, c'en est trop. Trop, c'est trop. Quand il réalise que son petit frère a osé revenir après tout ce qu'il avait fait, et qu'il voit avec quel empressement il est accueilli par son père, alors là, le masque du gentil garçon tombe d'un seul coup. Il laisse éclater la colère accumulée contre son père depuis des années, et surtout sa profonde frustration. C'est un frustré, ce fils aîné. Écoutez la liste de reproches qu'il adresse à son père, dans les versets 29 et 30 de Luc 15. Écoutez bien la liste. « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et quand celui-là, ton fils, pas mon frère, hein, ton fils, qui a mangé la fortune avec des prostituées, là, il faut que je m'arrête un instant. C'est lui qui le dit. On n'en sait rien. Le texte avant, quand il dit que lui, il est parti avec l'argent de sa part d'héritage, il est dit qu'il a mené grande vie, oui. Mais le texte s'arrête là. Mais le frère aîné a une imagination fertile. Il a mangé ta fortune avec des prostituées. Pour lui, tu tues le veau gras. Ah, c'est dégueulasse. Pardon. Non, le veau gras, c'est très bon, mais l'attitude. Vous voyez ce qu'il y a dans le cœur du fils aîné? C'est un frustré. Vous savez, moi j'ai de la sympathie pour ce type-là, quand même. parce que ça peut se comprendre un petit peu quand même. Faisons un tout petit peu de, avec l'aide d'Éric Félix, qui est notaire. Je ne sais pas s'il est là. Un petit peu de droit. Il est parti, le fils cadet, en demandant sa part d'héritage. Et il l'a reçue. Quand le père tue le Vaugrat, il est en train de prendre sur la part d'héritage de l'aîné. Il dit, mais oui. Et quand il lui donne un beau vêtement, une bague, etc., il est en train de puiser dans la part d'héritage qui doit revenir à l'aîné. Et je comprends qu'il soit un peu frustré. Il pourrait très bien, mais il a eu ce qu'il avait, ce qu'il devait recevoir. Tout ce qu'il a maintenant, c'est à moi. Et on comprend voilà, c'est pourquoi j'ai quand même une petite sympathie et je ne suis pas prêt à lui lancer des pierres trop fortes parce que j'ai peur qu'elle me revienne dessus. Vous comprenez? Parce que, voilà. Mais quand même, quelle frustration. Et je me demande si parfois, ces paroles-là, nous ne pourrions pas un tout petit peu, hein, avec tous les aménagements et sans critique, sans jugement pour personne, parce que je me les prends pour moi, en pleine figure, mais si quelquefois je ne mène pas une vie chrétienne de frustré. On me dit, Seigneur, je ne suis pas assez béni. Quand je me compare à tel ou tel, qui lui, ça marche mieux, ça réussit, puis moi, je rame. Et je développe parfois, ça m'arrive. Alors, vraiment, il y a un miroir devant moi, je ne vous vois pas, je ne vois que moi dans cette histoire. Mais parfois, je me demande si je ne cultive pas cette attitude de frustration que nous voyons là dans l'attitude du frère aîné. Le pasteur Timothy Keller, qui est un pasteur new-yorkais, qui a écrit un petit livre sur cette parabole qui s'appelle « Le Dieu prodigue », dit ceci, au fond, il n'y a pas seulement un fils perdu, il y en a deux. Le fils cadet était perdu, mais le fils aîné aussi. Pourtant, il n'était pas parti loin, lui. Vous voyez, comme les pharisiens et les spécialistes de la loi qui murmuraient contre Jésus parce qu'il accueillait et mangeait avec des pécheurs, le fils aîné, il murmure contre son père parce qu'il accueille son fils et il fait la fête avec lui. Même chose. Alors, je crois vraiment que le principe du salut au mérite, qui était le grand principe de vie du frère aîné, et ce principe nous colle à la peau à chacun de nous, à tous. Alors il colle plus ou moins fort, plus ou moins bien, et nous ne sommes pas obligés de le garder, mais c'est tellement naturel de vouloir mériter. En bossant, en nous sacrifiant, mais en disant, je fais tout ça parce que j'attends quelque chose en retour. Vous savez, si Jésus a raconté cette parabole, et qu'elle a été transmise dans la parole de Dieu, et que nous pouvons l'étudier, la lire à notre tour, c'est que Jésus savait que derrière, j'ai dit qu'il y avait deux groupes de personnages qui l'écoutaient. Il y avait les pécheurs notoires, il y avait les pharisiens et les spécialistes de la loi, mais il y a un troisième groupe, c'est vous et moi. Nous sommes aussi là, nous l'avons aussi vu, entendu cette histoire. Nous sommes là en retrait et nous l'écoutons aussi et elle nous parle aussi à nous aujourd'hui. Et nous avons besoin de l'entendre. Je trouve que l'attitude du frère aîné, elle est parfois cachée dans les recoins de mon propre cœur. Vous savez, l'Évangile, Jésus parle souvent du cœur de l'homme. C'est un lieu discret de ma personnalité que je ne permets à personne de visiter. Jésus appelle d'ailleurs ce lieu le trésor de notre cœur. L'homme bon, dit Jésus dans un autre passage, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Mon cœur est rempli de choses, il y a de bonnes choses, des choses précieuses, et puis il y a des choses plus douteuses, mais auxquelles je tiens. Je n'ai pas envie que personne ne les voie, mais voilà, je les garde bien précieusement au chaud, dans la chambre forte, que je ne permets à personne de visiter. Et parmi ces choses douteuses que j'ai dans mon propre cœur et que je dois confesser, que je dois regarder en face et dire non, Seigneur, je ne les veux pas, mais il y a nos arrière-pensées, nos calculs, nos excuses plus ou moins douteuses, nos rancunes. Oh, on aime bien les garder dans la... au coffre-fort, nos rancunes, et les ressortir à l'occasion. Et parfois même nos haines dans le mauvais trésor de notre cœur. Il y a toutes ces choses et qui ressortent comme elles sont ressorties d'un bloc, d'un coup, dans le cœur du fils aîné quand sa colère a éclaté. Tout ça, c'était dans son cœur. Ça bouillonnait, ça fermentait, c'était là. Et c'est ressorti. Et nous ne sommes pas faits autrement que le frère aîné. Nous avons aussi ce genre de choses qui se baladent dans nos pensées, dans nos cœurs, et dont nous avons besoin d'être guéris, d'être pardonnés, d'être purifiés. La parole de Dieu nous présente plusieurs histoires dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, surtout dans l'Ancien Testament, de relations fraternelles compliquées entre frères. Plusieurs couples là, couples de frères qui me sont venus à l'esprit. Bien sûr, ça commence le premier, c'est Caïn et Abel. Caïn et Abel, c'est pas triste, hein, cette histoire. Ismaël et Isaac. Jacob et Ésaü. Moins connu, Salomon et Adonia, deux fils de David. Beaucoup plus que ça, mais entre ces deux-là, il s'est passé des choses difficiles aussi. Et j'en passe. La parole de Dieu nous présente des cas comme ça. Et j'aimerais en particulier m'arrêter sur le premier que j'ai cité, les deux frères Caïn et Abel. Et sur cette parole que je trouve glaçante de Caïn, après qu'il ait commis son crime, tué son frère, et que Dieu lui demande « Mais où est ton frère ?» « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Quelle horreur ! « Suis-je le gardien de mon frère ?» Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça. Moi, je ne pense pas avoir jamais dit ça à propos de mon frère ou de ma sœur. Là, je la regarde. Ni dans ma famille de sang, ni dans ma famille plus élargie, de l'Église ou de mes contemporains. Je ne pense pas avoir jamais osé dire cette phrase parce qu'elle est biblique et je sais qu'elle n'est pas bonne. Par contre, il y a d'autres façons de le dire. Et j'ai parfois pu penser, pour éviter de m'engager, d'aider quelqu'un, de le rencontrer, de le visiter, et que je n'avais pas envie. Alors j'ai eu cette pensée, et peut-être même que j'ai dû le dire quelquefois, ce n'est pas mon problème. Ça revient à peu près au même que suis-je le gardien de mon frère, hein, mais c'est plus soft. Mais chaque fois que nous disons devant une misère, devant une souffrance, ce n'est pas mon problème, nous disons un peu, suis-je le gardien de mon frère qui se débrouille ? C'est un bel exemple d'un de ces excuses bidons qu'on sort parfois du mauvais trésor de notre cœur pour se protéger, pour éviter de s'engager. Et c'est un triste constat. Et l'apôtre Paul, qui lui-même était un fin psychologue, après avoir analysé tout ce qu'il y avait dans son cœur d'homme, d'être humain pécheur, termine sa réflexion en disant « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Mais il continue « Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. » Il y a un moyen d'en sortir. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, ne dit jamais « c'est pas mon problème ». Ce n'est pas dans le langage de Dieu. Il y a un texte qui est magnifique dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Lorsque Moïse a rencontré le Seigneur de façon extraordinaire devant le buisson ardent, que Dieu s'est révélé à lui, et Dieu lui a dit ceci. L'Éternel dit, Exode chapitre 3, verset 7, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. » J'ai vu, j'ai entendu, je connais, je suis descendu. Dieu ne dit jamais, c'est pas mon problème. Eh oui, la Shoah. Vous savez que l'épisode que nous rapporte Exode, le livre de l'Exode, ça a été la première persécution du peuple de Dieu dans la longue liste qui malheureusement risque de ne pas se terminer par la Shoah. Il y en a encore d'autres en perspective possible, potentielle. Dieu ne dit jamais « c'est pas mon problème ». Lorsque Jésus, crucifié, agonisant sur la croix, il n'a pas dit « c'est pas mon problème », il a dit « tout est accompli ». Maxime Le Forestier, vous connaissez Maxime Le Forestier, c'est un chanteur français, a écrit il y a bien longtemps une chanson assez célèbre qui parle du frère qu'il n'a jamais eu. Il était fils unique et il semble qu'il aurait bien aimé avoir un frère. Il dit ceci, « Toi, le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble ?» Un an après moi, tu serais né, alors on ne se serait plus quitté comme des amis qui se ressemblent. Et je pense à la parabole sur laquelle on est en train de réfléchir. Si le fils cadet avait pu compter sur un frère aîné comme ça, ça aurait tout changé, hein ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce frère aîné existe bel et bien. C'est un autre chant qui nous le dit, un chant de Noël. Écoutez le chant des anges. Je ne vais pas vous le chanter parce que ça va être un peu assez lamentable. Mais écoutez les paroles, ceux qui connaissent ce chant. Écoutez le chant des anges. Je m'arrête là. Vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Et puis le refrain. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Et si nous comparons maintenant ce frère-là avec le fils aîné de la parabole, il n'y a pas photo, ce n'est pas la même chose. Jésus n'est pas venu comme un frustré, en disant « oui, j'ai dû quitter la gloire du ciel pour venir dans ce monde pourri, rencontrer des gens pourris qui ne font que de râler et de murmurer, et puis c'est pas possible, c'est pas mon problème !» Jésus est venu et il a tout donné. Ah si, le frère, on nous demandait de ne pas tout donner, mais de donner un petit peu de sa richesse pour accueillir son frère et se réjouir. puis de dire à son père, ben, tu as eu bien raison, tu es le veau gras, finalement. Allez, on va se réjouir avec lui. Et puis d'aller embrasser son frère. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Jésus, lui, il allait embrasser les pécheurs. Et les pécheurs le ressentaient bien. Ils étaient là, agglutinés autour de lui, à écouter ses paroles. Et Jésus ne les caressait pas dans le sens du poil. Il leur disait, mais il faut vous repentir, il faut vous réconcilier avec Dieu. Et il le faisait, figurez-vous. Il se repentait et il recevait la joie du salut. Alors vous comprenez que Jésus ne pouvait pas faire autre chose que de manger avec eux, de se réjouir avec eux. L'Épître aux Hébreux nous parle à deux ou trois, j'ai compté trois fois, où Jésus est, où nous sommes appelés, où le peuple de Dieu, les chrétiens sont appelés les frères et sœurs de Jésus. Et je vous lis le verset 11 du chapitre 2, de l'Épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, qui dit ceci, « Jésus purifie... qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. » Jésus s'est fait homme. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Jésus n'a pas honte d'appeler les chrétiens ses frères. Jésus ne se paye pas la honte quand il nous regarde. Il nous aime. Il nous rachète. Quel frère aîné! Ah, un frère aîné comme lui, c'est celui que nous avons. Il n'a pas les réactions de celui de la parabole qui dit, mais ton frère, ton fils. Il nous appelle nos frères, nos sœurs, ses frères, ses sœurs. Et il nous reçoit. Autrement dit, et contrairement au fils aîné de la parabole de Jésus, notre frère aîné n'a pas honte de toi ni de moi. Au lieu de me reprocher mes fautes, ou les tiennes, il se joint à son Père pour te purifier de tes péchés. Ce qu'il a fait, hein, sur la croix, il est venu pour nous purifier de nos péchés. Et les versets 16 et 17 du deuxième chapitre des Hébreux continuent en disant « Ce n'est évidemment pas... » Il y a un peu d'humour là-dedans, hein. « Ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu. C'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide, c'est-à-dire à des hommes et à des femmes. Voilà pourquoi il devait être rendu en tous, à tous égards, semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre, plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu. » En vue d'expier les péchés de son peuple. Alors que le frère aîné faisait tout pour se désolidariser de son frère, Jésus, notre frère aîné, fait tout pour se solidariser avec nous et nous venir en aide. Il est allé jusqu'à expier nos péchés sur la croix dressée sur le mont Golgotha. Alors c'est à tout cela que je vous invite maintenant à faire mémoire. Je vais me déplacer vers la table et nous allons ensemble prendre le repas du Seigneur, de notre frère aîné, qui s'est solidarisé avec nous et qui nous invite à partager ce repas, qui fait deux choses ce repas. Il nous invite à nous rappeler, faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. Pensez au grand frère et à ce qu'il a fait pour nous. Il n'a pas eu honte de nous. Il nous a reçus, il nous a acceptés. Et puis, l'autre chose, c'est faites ceci. Ce repas, normalement, le micro aurait dû aller jusque-là, mais je vois que la ficelle n'est pas assez grande, là. Ah oui. Voilà. Voilà. Si tu ne vas pas à la table viendra à toi. Voilà. Voilà, nous prenons aussi ce repas en espérance de celui qu'un jour nous prendrons avec le Seigneur, le festin de l'agneau, et où alors on se réjouira tous ensemble, sans arrière-pensée, sans larmes, sans frustration. Alors je vous invite maintenant, mais alors là c'est toujours très compliqué, je vais parler plus fort, hein. Le Seigneur Jésus prit du pain et le rompit en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous ». Après le repas, il prit une coupe et il la distribua à tous en disant, je lis parce que chaque mot est important, je ne voudrais pas en louper un, « Buvez ».